Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Thibaut de Montbrial qui est avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et candidat au régional en Ile-de-France sur la liste de Valérie Pécresse.
Bonjour Thibaut de Montbrial.
Bonjour.
Il y a davantage de répression aujourd'hui qu'autrefois. Mise au point d'Éric Dupond-Moretti à l'occasion du Beauvau de la sécurité hier. Pour vous, spécialiste de ces questions, est-ce une réalité et pourquoi dans ces conditions ce grand malaise à l'heure du moment ?
On peut mettre tout ce qu'on veut derrière le mot de répression. On peut prendre des statistiques, on peut dire on a un taux de réponse pénale qui est de temps, etc. La réalité, c'est qu'est-ce qui est utile, c'est-à-dire qu'est-ce qui est impactant en termes de réponse à une délinquance donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, la délinquance suit une dérive d'explosion de violences, qui sont des violences de plus en plus graves, commises par des gens de plus en plus jeunes. Donc, on a d'une part une évolution statistique, avec le fameux taux d'homicidité relevé par Alain Boer, c'est-à-dire toutes les meurtres, tentatives de meurtre et violences volontaires graves depuis 5 ans, qui ont statistiquement beaucoup augmenté. Et puis, il y a un constat empirique que nous faisons, par exemple, au Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, avec nos contacts policiers et gendarmes, mais également avec nos contacts préfets et procureurs, donc c'est pas du tout une vision policière de la chose, qui est que depuis la fin du premier confinement, pour faire court, eh bien, il y a une augmentation localement constatée de la violence, des atteintes aux personnes et en particulier des atteintes graves, de l'ordre de 20%. C'est encore empirique parce qu'on n'a pas le recul statistique précis. Oui. Et face à ça, on a une justice dont moi je refuse à dire qu'elle est laxiste, parce que c'est plus compliqué que ça, mais qui est dans un certain conformisme et qui n'a sans doute pas compris que face à ces délinquants de plus en plus brutaux et de plus en plus jeunes, il fallait impacter tout de suite. C'est-à-dire que la bienveillance qui consiste à dire on va mettre un premier, un deuxième, un troisième, voire un quatrième avertissement, c'est en face aujourd'hui considéré comme de la faiblesse. Oui. Donc il faut marquer, pas par une sévérité excessive, ni encore moins injuste, ce serait catastrophique, mais par des peines qui soient des peines adaptées, mais impactantes dans la vie du délinquant. Vous ne pouvez pas dire à un jeune qui a frappé un policier, et même s'il ne l'a pas frappé gravement, il sera condamné lourdement. Mmh. Mais s'il a juste bousculé, etc., vous ne pouvez pas lui mettre un travail d'intérêt général 6 mois après. Ouais. Lui, il va considérer qu'il n'y a pas de réponse et qu'il peut passer au stade d'au-dessus.
Et ceux qui vont aller attaquer des commissariats avec des tirs de mortier, là, des feux d'artifice, ou mener le trouble aussi dans des quartiers. Est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce que la justice est adaptée en fait aussi à cela ? Parce qu'il y a, des choses qui peuvent être avérées, des faits de quand vous dites on bouscule un policier, oui, mais il y a d'autres cas où on participe à une manifestation, etc. Et là, c'est peut-être plus difficile d'intervenir.
Alors, vous avez tout à fait raison de souligner ce genre de faits qui sont des faits pour lesquels la responsabilité judiciaire, c'est-à-dire la culpabilité, est extrêmement difficile à établir. Quand vous avez un groupe d'individus qui sont encapuchonnés, masqués, etc., et qui se livrent comme ça à une attaque brutale d'un véhicule de police ou d'un commissariat, et qui ne restent pas, qui s'en vont ensuite, c'est très difficile d'établir judiciairement, parce qu'on peut pas faire une rafle dans le quartier et condamner tous les gens qui étaient là. On est en démocratie, et heureusement. Donc il faut... le problème, c'est que il y a des mesures d'enquête qui doivent être faites, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais on y arrive, hein. Il y a quand même des bandes qui sont arrêtées. Ensuite, judiciairement, il y a un principe qui s'appelle la coaction, qui fait que, normalement, toutes les personnes qui ont concouru sans qu'on puisse distinguer lequel d'entre elles, par exemple, a lancé le cocktail Molotov, normalement, toutes les personnes qui ont concouru à des violences doivent être condamnées à la même peine. En pratique, c'est pas toujours le cas.
Thibaut de Montbrial, alors, quand Dupond-Moretti parlait de sentiments d'insécurité et affirmait même que la France n'était pas un coupe-gorge, il avait raison ou il avait tort, finalement ? Au vu des chiffres de ce que vous nous dites là aujourd'hui.
Il y a un problème, si vous voulez. Moi, je ne remets pas en cause la sincérité d'Éric Dupond-Moretti. Mais quand vous avez, pendant 40 ans, établi votre notoriété professionnelle sur la base d'un exercice brillant du métier d'avocat, mais...
Vous connaissez bien, vous-même, vous êtes
exclusivement,
avocat.
Exclusivement dans une logique de défense qui consistait à attaquer la justice, à attaquer la police, à attaquer nos institutions. C'est extrêmement difficile en 24 heures, d'endosser tout à coup le rôle d'un garde des Sceaux, qui donc est à la tête d'un ministère, qui est l'un des deux ministères qui concourent à la sécurité des Français. Je rappelle que la sécurité, c'est pas juste l'affaire de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, mais c'est une coproduction entre deux chaînes, une chaîne policière et une chaîne judiciaire, et donc la justice concourt autant à la sécurité que l'Intérieur. Et donc, comment voulez-vous incarner tout à coup la part judiciaire de cette autorité quand vous avez vécu toute votre vie professionnelle à dire l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un problème de crédibilité qui, attention, ne touche pas la personne d'Éric Dupond-Moretti. Je ne le mets pas du tout en cause personnellement, mais ce qu'il est et son parcours ne le qualifie pas pour venir porter aujourd'hui une autre parole. Comment voulez-vous qu'il dise autre chose que ce qu'il a dit depuis 40 ans ?
Ouais, et alors, du coup, l'attelage Darmanin-Dupond-Moretti, ça peut fonctionner et permettre de réconcilier ou pas la justice et la police. Parce que la question fondamentale, elle était aussi un peu là, quand même, aujourd'hui.
Mais bien sûr, mais je les ai regardés hier au Beauvau de la sécurité, ils font des efforts, mais là encore, et au-delà de leurs deux personnes, qui encore une fois, ils ne sont pas en cause personnellement, mais vous avez un discours, on l'a bien vu en juillet-août, pendant les réglages, quand le nouveau gouvernement était installé, vous avez Gérald Darmanin, qui est dans une vraie cohérence, qui a des convictions sur le sujet, qui fait des pas dans une bonne direction, sans doute pourrait-on faire plus, mais en tout cas, c'est le bon cap. Et puis, qui parle d'ensauvagement, etc. Et puis, Éric Dupond-Moretti, qui, lui, se distingue par les déclarations, notamment celles que vous avez rappelées, qui sont des déclarations de début de l'été dernier. Donc, c'est très difficile. Et au-delà de E2, c'est la question de la politique, des limites du « et en même temps ». On ne peut pas faire du « en même temps » sur le régalien. Sur le régalien, sur les fondamentaux, sur l'islamisme, sur la dérive dans nos quartiers, c'est pas du « et en même temps », c'est d'une autorité massive qui est attendue. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une chose essentielle à rappeler. C'est pas de l'autorité pour l'autorité et l'autoritarisme. C'est que, qui sont les premières victimes des dérives que dont on parle ce matin ? Ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers, qui sont stigmatisés sur leur CV, parce qu'ils viennent d'un quartier, ceux qui ont fait le choix de travailler, de jouer le rôle, de jouer le jeu de l'intégration et les institutions, de bosser, de passer des diplômes et de s'intégrer dans notre société. Quand ils vont postuler pour un job et qu'on voit qu'ils viennent de tel ou tel quartier, on ne les prend pas. Pourquoi ? Parce que le quartier a une sale réputation à cause des 5 ou 10% de racailles qui leur pourrissent la vie. Et c'est donc à l'ensemble de nos concitoyens, au premier rang desquels ceux qui vivent dans ces quartiers-là, que l'on doit d'être inflexible sur les questions d'autorité, sécurité, intérieur, justice.
Et pourquoi, selon vous, alors il y a davantage quand même de violence, et notamment depuis quelques années, mais aussi même la sortie du déconfinement, d'où ça vient ? Qu'est-ce qui explique ça ?
Alors je pense qu'il y a des racines qui sont anciennes et profondes. Ouais. Je pense que la France a vécu un tournant qui, avec le recul, s'avère de plus en plus catastrophique il y a une quarantaine d'années. Il y a eu le cumul de plein de choses. Il y a eu d'abord ce qui en soi n'aurait pas forcément dû amener à des situations si compliquées, mais il y a une politique d'immigration qui a été très mal maîtrisée, qui fait qu'en 40 ans la population de la France a changé, qu'en 40 ans une partie de la culture qui s'exprime en France a changé, et que corrélativement...
Tout n'a pas changé quand même.
Il y a 10 à 15% de la population qui n'a plus du tout les mêmes référents culturels qu'il y a 40 ans. Ouais. Et face à ça, ça aurait pu marcher. Ouais. Et il y aurait pu avoir une intégration réussie sur la base des valeurs fondamentales de la République, s'il y avait eu, sur la durée, un maintien des repères, un maintien de l'autorité. Mais comme on était dans la génération post-68 et qu'il y a eu une espèce de dérèglement, de dérégulation, élection de Mitterrand en 81, qui a ouvert les fenêtres sur plein de choses, hein, qui sur la société française a amené une bouffée d'air frais, mais qui a abandonné, la classe politique à cette époque, a abandonné tous les grands thèmes régaliens au Front National. Parfois par calcul politique, enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais on s'en souvient. Donc, pendant 20 ou 30 ans, quiconque parlait d'autorité, quiconque parlait du drapeau, quiconque parlait du respect de notre État, de la nation, de la patrie, etc., se faisait traiter de facho. Même la droite dite de gouvernement n'osait plus le faire. Alors, et donc, évidemment, la nature ayant horreur du vide, ben, les gens qui ont une culture différente et une transcendance différente ont commencé à prendre de la place.
C'est pour ça que vous inscrivez un registre politique aujourd'hui, en étant sur la liste de Valérie Pécresse pour les régionales, parce que en matière de sécurité, une région, elle n'a pas forcément beaucoup de compétences. Quoi.
Non, mais j'ai accepté la proposition de Valérie Pécresse de m'inscrire symboliquement à la fin de sa liste pour illustrer mon adhésion à la façon dont elle voit les questions de sécurité. Moi, je connais bien Valérie Pécresse, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît. J'ai vu son évolution. Elle est aujourd'hui à la fois comme présidente de région, mais aussi comme femme politique, absolument convaincue de la justesse de tout ce que je vous dis, le tête de liste à Paris. Frédéric Pechenard l'incarne par l'excellence de son parcours de vie, et tout ce qu'elle a fait, notamment sur les transports, etc., dans la région, sur la sécurité, l'illustre, mais bien au-delà de la question des régionales et de mon engagement auprès de Valérie Pécresse, dont j'espère qu'elle sera réélue présidente de la région Île-de-France. Moi, j'ai aujourd'hui 52 ans, ça fait presque 30 ans que je suis avocat, je travaille beaucoup avec la police et la gendarmerie, mais pas uniquement, et je suis désolé, j'écris des livres, je suis désolé de voir l'effondrement de mon pays, parce que c'est un effondrement. Et donc, je suis un spectateur engagé, de plus en plus engagé, et c'est vrai que je suis prêt à ne plus être spectateur. Si des gens qui ont la même vision que moi, celle que notamment je décris dans mon dernier livre, où il y a aussi beaucoup de propositions, pas seulement un constat, mais beaucoup de propositions qui sont objectivement des propositions politiques, si des gens considèrent qu'il y a un bout de chemin à faire ensemble pour redresser tout ça, moi je suis prêt à le faire, mais vous savez, il faut pas trop tarder, parce que la situation du pays est extrêmement fracturée. C'est aussi une autre manière de vous répondre sur les violences. La violence est aujourd'hui en train de devenir un mode de résolution du conflit dans notre pays, ce qui est un problème gravissime. Le seuil de recours aux violences graves s'effondre tous les jours. Les policiers et les gendarmes sont pris pour cible pour ce qu'ils sont, y compris hors service, toutes les nuits aujourd'hui.
Ouais. Dernière question avec Cécile de Ménibus, Thibault de Montbrial.
Sur le volet terroriste, la prochaine bataille finalement juridique et politique, c'est quoi ? C'est les frontières, le contrôle ?
Le contrôle des frontières, c'est la mère de toutes les batailles, parce que on pourra faire tout ce qu'on peut, et encore, plus reste à faire, mais on peut faire tout ce qu'on peut contre le terrorisme et contre l'islamisme, parce que le terrorisme c'est un moyen d'action, mais le danger c'est l'idéologie qui est derrière. Si on ne ferme pas le robinet, vous pouvez écoper la baignoire, si vous continuez à la remplir, le problème ne se réglera pas.
Ouais. Merci beaucoup Thibault de Montbrial, avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, candidat donc au régional sur la liste de Valérie Pécresse, et auteur de votre livre. Redonnez le titre, tiens, allez, vous avez 10 secondes pour faire la promo.
Osons l'autorité, tout un programme.
Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.
Et à suivre le journal de 8h.